Ivanhoé, chapitre 10. Le chevalier déshérité n'eut pas plutôt regagné son pavillon que les écuyers et les pages vinrent lui offrir leurs services pour le désarmer, lui apprêter des habits de rechange et l'engager à prendre un bain. Leur zèle en cette circonstance était peut-être aiguisée par la curiosité, car chacun désirait savoir quel était ce chevalier qui avait moissonné tant de lauriers et qui, cependant, avait refusé, même sur l'ordre du prince Jean, de lever sa visière et de décliner son nom. Mais l'officieuse curiosité des pages ne fut pas satisfaite. Le chevalier déshérité refusa ses offres d'aide, excepté celle de son propre écuyer, ou yeoman, homme d'un aspect rustique, qui, enveloppé d'un manteau de feutre foncé, la tête et la figure à moitié cachées sous un bonnet de fourrure noire, paraissait rechercher l'incognito aussi bien que son maître. Tous les autres ayant été exclus de l'attente, ce serviteur débarrassa le chevalier des pièces les plus lourdes de son armure et plaça devant lui des mets et du vin que les fatigues de la journée rendaient très nécessaires. Le chevalier avait à peine terminé son court repas que son domestique lui annonça que 5 hommes, conduisant chacun un coursier barbe, désiraient lui parler. Le chevalier déshérité avait échangé son armure contre une robe longue, portée habituellement par ceux de sa condition, et garnie d'un capuchon qui cachait les traits. Quand tel était le plaisir du porteur, presque aussi complètement que la visière du casque lui-même. Mais le crépuscule qui tombait rapidement eût rendu tout déguisement inutile, si ce n'est pour cela auquel sa figure eût été particulièrement connue. Le chevalier déshérité s'avança donc hardiment sur le devant de sa tente et rencontra les écuyers des chevaliers tenants, qu'il reconnut facilement à leur livrée rouge et noire. Chacun d'eux menait en bride le coursier de son maître, chargé de l'armature dans laquelle celui-ci avait combattu ce jour-là. Selon les lois de la chevalerie, dit celui qui marchait en tête de ses hommes, moi, Baudouin d'Oillé, écuyer du redoutable chevalier brillant de Bois-Guilbert, je vous offre, vous nommant provisoirement le chevalier déshérité, le cheval et l'armure employés par ledit brillant de Bois-Guilbert dans la passe d'armes de ce jour, laissant au choix de votre seigneurie de les retenir ou de fixer une rançon, selon votre plaisir, car telle est la loi des armes. » Les autres écuyers répétèrent à peu près la même formule et attendirent la réponse du chevalier déshérité. « Pour vous quatre, messieurs, » répondit celui-ci en se retournant vers ceux qui avaient parlé les derniers, « et pour vos honorables et vaillants maîtres, j'ai une seule et même réponse à faire. Recommandez-moi à ces nobles chevaliers, vos seigneurs, et dites-leur qu'il serait mal de ma part de les priver d'armes et de coursiers qui ne pourraient appartenir à de plus braves guerriers. Je serais heureux de pouvoir ici terminer mon message à mes loyaux adversaires. Mais, étant véritablement déshérité, comme mon nom l'indique, il faut que je sois redevable à la courtoisie de vos maîtres de vouloir bien fixer eux-mêmes la rançon de ces objets, car l'armure que je porte m'appartient à peine. Chacun de nous est chargé, répondit l'écuyer de Reginald Front de Bœuf, d'offrir 100 de sequins pour la rançon de ses chevaux et de ses armures.
Cela suffit, répondit le chevalier déshérité. Mes besoins actuels me forcent à accepter la moitié de cette somme. Quant à l'autre moitié, partagez-la entre vous, messieurs écuyers, et donnez 100 de sequins aux héros, aux poursuivants, aux ménestrels et aux serviteurs. »
Les écuyers, le bonnet à la main et en faisant de profondes salutations, exprimèrent leur vive reconnaissance d'une courtoisie et d'une générosité qu'on ne pratiquait pas souvent sur une échelle aussi étendue. Le chevalier déshérité, se tournant ensuite vers Baudouin, l'écuyer de Brillant de Bois-Guilbert. « Quant à votre maître, dit-il, je ne veux accepter de lui ni armes ni rançon.
Dites-lui en mon nom que notre lutte n'est pas terminée, et ne le sera que quand nous aurons combattu, aussi bien avec l'épée qu'avec la lance, aussi bien à pied qu'à cheval. C'est lui-même qui m'a porté ce défi mortel, je ne l'oublierai pas. En attendant, qu'il reste assuré que je ne le considère pas comme un de ses compagnons contre lesquels je puis avec plaisir faire échange de courtoisie, mais plutôt comme un homme envers lequel je dois observer une méfiance mortelle.
« Mon maître, répondit Baudouin, c'est rendre mépris pour mépris, coup pour coup et courtoisie pour courtoisie. Puisque vous ne daignez accepter de sa main aucune part de la rançon à laquelle vous avez fixé les armes des autres chevaliers, je dois laisser son cheval et son armure, sachant bien qu'il ne daignera jamais plus monter sur l'un ni porter l'autre.
« Vous avez bien parlé, brave écuyer, dit le chevalier déshérité. Bien et hardiment parlé, comme il convient de le faire à celui qui parle au nom d'un maître absent. Cependant, ne laissez pas ici le cheval et l'armure, restituez-les à votre maître. Ou, s'il est trop fier pour les reprendre, gardez-les, mon brave ami, pour votre propre usage. En tant qu'ils sont à moi, je vous les donne tous deux de grand cœur. »
Baudouin fit un profond salut et se retira avec ses compagnons. Le chevalier déshérité rentra dans le pavillon.
« Jusqu'ici, Gurt, dit-il à son valet, la réputation de la chevalerie anglaise n'a pas périclité dans mes mains. »
« Et moi, dit Gurt, pour un porcher saxon, je n'ai pas mal représenté le personnage d'un écuyer normand. »
« Oui, répondit le chevalier déshérité, mais tu m'as mis dans une inquiétude extrême que ton maintien de rustre ne te trahit. »
« Bah, dit Gurt, je n'ai craint d'être reconnu de personne, si ce n'est de mon camarade Wamba, le bouffon, dont je n'ai jamais pu savoir s'il était plus fripon que fou. Cependant, j'ai eu bien de la peine à ne pas éclater de rire lorsque mon vieux maître a passé si près de moi, s'imaginant toujours que Gurt gardait ses pourceaux dans les broussailles et les marécages de Rotten Wood. Si je suis découvert...
« Assez, dit le chevalier déshérité, tu connais ma promesse. »
« Non. Quant à cela, dit Gurt, jamais je ne manquerai à mon amitié, fût-ce pour sauver ma peau. J'ai une rude écorce qui résistera au couteau ou au fouet, aussi bien que celle d'aucun porc de mes troupeaux.
Crois bien que je te récompenserai du risque que tu cours, Gurt, pour l'amour de moi, dit le chevalier. En attendant, je te prie d'accepter ces 10 pièces d'or.
Je suis plus riche, dit Gurt en les mettant dans sa poche, que ne le fut jamais aucun porcher ou serf.
Porte ce sac d'or à Ashby, continua son maître, et va trouver Isaac, le juif d'York, et qu'il se paie du cheval et des armes que son crédit m'a procuré.
Non, par Saint-Destan, reprit Gurt, je ne ferai pas cela.
Comment, coquin? Répliqua son maître. Ne veux-tu plus obéir à mes ordres?
Tant qu'ils seront honnêtes, raisonnables et chrétiens, répondit Gurt, j'y obéirai.
Mais cet ordre-ci ne l'est pas. Permettre aux Juifs de se payer serait malhonnête, ce serait tromper mon maître. Il serait déraisonnable, parce que ce serait l'action d'un sot. Et ce ne serait pas chrétien, car ce serait piller un croyant pour enrichir un infidèle.
Fais toutefois qu'il soit content, entêté valet, ajouta le chevalier déshérité.
Je le ferai, dit Gurt en mettant le sac sous son manteau et en quittant la tente.
Et j'aurai du mal, murmura-t-il, si je ne le contente pas avec la moitié de sa demande.
En disant ces mots, il sortit et laissa le chevalier déshérité livré à ses réflexions perplexes, lesquelles étaient d'une nature particulièrement sombre et pénible, étant soulevées par des causes qu'il ne m'est pas encore possible de faire connaître au lecteur. Il faut maintenant transporter la scène au village d'Asby, ou plutôt à une maison de campagne dans ses environs, appartenant à un riche Israélite, chez qui Isaac, sa fille et sa suite étaient logés momentanément. Car les Juifs, on le sait bien, étaient aussi généreux dans l'exercice des devoirs de la charité et de l'hospitalité envers leurs frères qu'ils passaient pour être récalcitrants et ladres quand il s'agissait de les appliquer à ceux qu'ils nommaient « gentils » et qui, par leur conduite, méritaient peu certainement cette hospitalité de leur part. Dans un appartement, petit à la vérité, mais richement meublé et décoré à l'orientale, était assise Rebecca sur un monceau de coussins brodés rangés le long d'une espèce de plateforme basse qui, faisant le tour de la chambre, servait, comme l'estrade des Espagnols, de chaise et de tabouret. Elle observait les mouvements de son père d'un regard d'affection filiale et inquiète, tandis que lui, il arpentait la chambre avec une mine abattue, d'un pas désordonné, tantôt joignant ses mains ensemble, tantôt fixant les yeux au plafond, comme un homme en proie à un grand trouble intérieur. « Oh, Jacob ! » s'écria-t-il. « Oh, vous, les 12 saints pères de nos tribus ! Quel événement ruineux pour celui qui a observé religieusement tous les commandements de la loi de Moïse ! 50 sequins arrachés d'une seule rafle et par les griffes d'un tyran !»« Mais, mon père, » dit Rebecca, « vous avez paru donner cet or au prince Jean de votre pleine volonté ?»«
De ma pleine volonté ? Que la lèpre d'Égypte le ronge !» s'écria Isaac. « De ma pleine volonté, dis-tu ? Oui, aussi volontairement que lorsque j'ai jeté dans le golfe de Lyon mes marchandises à la mer pour soulager le navire. Aussi volontairement que j'ai couvert les flots furieux de mes belles soieries, que j'ai parfumé leur écume de myrte et d'aloès, que j'ai comblé leurs abîmes avec de l'or et de l'argent. N'était-ce pas là une heure d'angoisse indicible, quoique mes propres mains accomplissent le sacrifice ?
Mais c'était un sacrifice que le ciel exigeait pour sauver notre vie, répondit Rebecca. Et le Dieu de nos pères, depuis ce temps, a béni votre bien et vos entreprises.
Oui, répondit Isaac. Mais si le tyran s'en empare, comme il l'a fait aujourd'hui, en nous forçant à sourire quand il nous vole, oh, ma fille, déshérités et errants comme nous le sommes, le pire des maux qui tombe sur notre race est, lorsqu'on nous injurie et qu'on nous pille, que tout le monde se moque de nous, et nous sommes forcés de cacher le ressentiment de nos injures et de sourire timidement, au lieu de nous venger avec courage.
« Ne songez pas à cela, mon père, » dit Rebecca. « Nous aussi, nous avons nos avantages. Ces gentils, tout cruels et oppresseurs qu'ils sont, dépendent en quelque sorte des enfants dispersés de Sion, qu'ils méprisent et persécutent. Sans le secours de nos richesses, ils ne sauraient équiper leurs armées pour la guerre, ni pourvoir à leur triomphe pendant la paix. Et l'or que nous leur prêtons revient avec usure dans nos coffres. Nous ressemblons à cette herbe, qui, plus on la foule aux pieds, plus elle fleurit. Et même la solennité de ce jour n'aurait pu avoir lieu sans l'assentiment du juif méprisé, qui en a avancé la dépense.
« Ma fille, dit Isaac, tu as touché là une autre corde de ma tristesse. Ce bon cheval et cette riche armure, équivalent à tous les bénéfices de mon entreprise avec Kirgat Jairam de Leicester, voilà encore une plaie mortelle.
Oui. Une perte qui engloutit les gains de toute une semaine, l'espace entre deux sabbats. Mais cependant, cela peut finir mieux que je ne le pense, car c'est un brave jeune homme.
Assurément, reprit Rebecca, vous n'aurez pas à vous repentir d'avoir payé le bon service que vous a rendu le chevalier étranger.
Je l'espère, ma fille, dit Isaac, mais j'espère aussi que l'on rebâtira Sion. J'espère autant voir de mes propres yeux les murs et les remparts du nouveau temple que de voir un chrétien, fût-ce le meilleur d'entre tous les chrétiens, acquitter une dette envers un juif, si ce n'est sous la terreur du juge et du geôlier. » Ayant dit ces paroles, il reprit sa marche incohérente à travers l'appartement. Et Rebecca, s'apercevant que toutes les tentatives qu'elle avait faites pour le consoler n'avaient abouti qu'à réveiller de nouveaux sujets de plainte, eut la sagesse de se désister de ses vains efforts. Conduite prudente, que nous recommandons à tous ceux qui s'érigent en consolateurs et conseillers de suivre en pareille circonstance. Il faisait déjà nuit lorsqu'une servante juive entra dans la salle et posa sur la table deux lampes d'argent garnies d'huile parfumée. Les vins les plus riches et les mets les plus délicats furent en même temps étalés par une autre domestique sur une petite table d'ébène incrustée d'argent. Car, dans l'intérieur de leur maison, les Juifs ne se refusaient aucune jouissance dispendieuse. En même temps, cette dernière informa Isaac qu'un Nazaréen, c'était ainsi qu'il désignait entre eux les chrétiens, demandait à lui parler. Celui qui vit du commerce doit se tenir à la disposition du premier venu qui est affaire à lui. Isaac reposa aussitôt, sans y goûter, sur la table, la coupe de vin grec qu'il venait de porter à ses lèvres, en disant à sa fille « Rebecca, voile-toi ». Et il ordonna qu'on admît l'étranger. À peine Rebecca eut-elle abaissé sur son beau visage un voile de gaze argentée qui descendait jusqu'à ses pieds, que la porte s'ouvrit et que Gert parut, enveloppé dans les vastes plis de son manteau normand. Son apparence était plutôt suspecte que prévenante, surtout quand, au lieu d'ôter son bonnet, il l'enfonça encore davantage sur son front rude et hâlé. « Serais-tu Isaac, le juif d'York ?» demanda Gert en saxon. « Je le suis, » répondit Isaac dans la même langue, car son commerce l'avait rendu familier avec tous les idiomes en usage alors en Angleterre. « Et qui es-tu, toi ?»«
Cela ne te regarde pas, » répondit Gert.
« Cela me regarde autant que mon nom t'intéresse toi-même, » répliqua Isaac. « Car sans connaître le tien, comment pourrais-je traiter avec toi ?»«
Facilement, » dit Gert, « car comme j'ai de l'argent à donner, je dois savoir si je le livre à la véritable personne. Tandis que toi qui dois le recevoir, je pense que tu te soucieras très peu de quelle main il t'arrive. »«
Oh !» dit le juif, « vous venez me donner de l'argent. Père Abraham, cela change nos rapports mutuels. » « Et de quelle part me l'apportez-vous ?»«
De la part du chevalier déshérité, » dit Gert, « le vainqueur du tournoi d'aujourd'hui. C'est le prix de l'armure que lui a fournie Kirgat Jairam de Leicester sur ta recommandation. Le cheval est rendu à ton écurie. Je viens savoir le montant de la somme que j'ai à payer pour l'armure. » »«
Je l'avais bien dit que c'était un brave jeune homme !» s'écria Isaac avec une joyeuse exaltation. « Un coup de vin ne te fera pas de mal » ajouta-t-il en remplissant un hanap et en présentant au porcher un breuvage plus riche que Gert n'en avait jamais goûté de sa vie.
« Et combien d'argent apportes-tu ? » demanda Isaac.
« Sainte Vierge !» s'écria Gert reposant la coupe sur la table. « Quel nectar boivent ces chiens de mécréants, tandis que nous autres, vrais chrétiens, nous devons nous contenter d'ales aussi épaisses que le mélange que nous servons aux porcs dans leur auge.
Combien d'argent j'apporte ?» continua le Saxon après cette sortie inconvenante.
« Mais ce n'est qu'une petite somme, un acompte pour le moment. Allons, Isaac, tout juif que tu es, tu dois avoir une conscience. »
Mais, dit Isaac, ton maître a gagné de bons chevaux et de riches armures avec sa bonne lance et sa main droite, mais c'est un brave jeune homme. Le juif prendra ses dépouilles en paiement et lui rendra le surplus.
Mon maître les a déjà vendus, dit Gert.
Ah, Il a mal fait, dit le juif. C'est là l'acte d'un fou. Il n'y a point de chrétien ici qui pût acheter tant de chevaux et d'armures. Il n'y a pas de juif qui ait pu lui en donner la moitié de ce que j'en aurais offert. Mais tu dois avoir 100 sequins dans ce sac, dit Isaac en regardant sous le manteau de Goethe. Il est lourd.
J'ai des viretons pour les arbalètes, dit Goethe vivement.
Eh bien, donc, reprit Isaac, haletant et hésitant entre son amour habituel du gain et le désir nouveau pour lui qu'il se sentait d'être généreux en cette occasion.
Si je disais que je prendrais 80 sequins pour le bon cheval et la riche armure, ce qui me laisse à peine un florin de profit, aurais-tu de l'argent pour me payer ?
À peine, dit Goethe, bien que la somme qu'on lui demandait fût plus modérée qu'il ne s'y attendait, et cela laisserait mon maître presque sans un penny. Néanmoins, si c'est là ton dernier mot, il me faudra m'en contenter.
« Remplis-toi une nouvelle coupe de vin, » dit le juif.
« Ah, 80 sequins, c'est trop peu. Je n'aurai rien pour les intérêts de mon argent. Et d'ailleurs, le bon cheval aura dû souffrir dans le combat d'aujourd'hui. Oh, c'était une rude et dangereuse mêlée. Hommes et coursiers s'élançaient les uns sur les autres comme les taureaux sauvages de Bazan. Le cheval doit avoir souffert. »
« Et moi, je vous dis, » reprit Goethe, qu'il est parfaitement sain d'haleine et de corps. Vous pouvez le voir à cette heure dans votre écurie. Et je crois, en somme, que 70 sequins sont assez pour l'armure. Et la parole d'un chrétien vaut bien celle d'un juif, j'espère. Si vous ne voulez pas accepter 70 sequins, je rapporterai ce sac à mon maître. »
En disant ces mots, il secoua le sac et fit sonner les sequins.
« Non, non !» dit Isaac. « Dépose les talents et les shekels contre les 80 sequins et tu verras que je serai généreux envers toi. »
Goethe à la fin consentit, et quand il eut compté les 80 sequins sur la table, le juif lui délivra une quittance pour le cheval et l'armure. La main du juif tremblait de joie en serrant les premières 70 pièces d'or. Les autres 10, il les compta avec beaucoup plus de circonspection, et disant quelques mots à chaque pièce qu'il enlevait de la table et qu'il laissait tomber dans sa bourse. Il semblait que son avarice luttait contre les meilleurs sentiments et le forçait d'empocher sequin sur sequin, tandis que sa générosité l'engageait à en restituer au moins une partie à son bienfaiteur ou à en gratifier son argent. Il discourait à peu près ainsi.
71, 72, ton maître est un brave jeune homme. 73, un excellent jeune homme. 74, cette pièce est rognée dans son pourtour. 75, celle-ci ne me paraît pas avoir le poids. 76, lorsque ton maître aura besoin d'argent et qu'il s'adresse à Isaac d'York. 77, c'est-à-dire avec une hypothèse raisonnable. »
Ici, il fit une longue pause, et Goethe avait bon espoir que les 3 dernières pièces échapperaient au sort de leur compagne. Mais l'énumération continua.
« 78, tu es un brave garçon. 79, et tu mérites quelque chose. »
Ici, le juif s'arrêta de nouveau et se mit à regarder le dernier sequin, voulant sans doute le donner à Goethe. Il le pesa sur le bout de son doigt et le fit sonner en le laissant tomber sur la table. S'il eût rendu un son sourd ou s'il se fût trouvé trop léger d'un cheveu, la générosité aurait eu le dessus. Mais malheureusement pour Goethe, le son était plein et vrai. Le sequin, gras et nouvellement frappé, avait un grain en sus du poids. Isaac ne pouvait prendre sur son cœur de s'en défaire. Aussi le laissa-t-il tomber dans sa bourse comme par distraction en disant «
Le compte y est, et j'espère que ton maître te récompensera dignement.
Assurément, ajouta-t-il en regardant le sac avec des yeux avides.
Tu as encore de l'argent dans ce sac.
Gert fit une grimace. C'était ce qui, chez lui, approchait le plus du rire, et répliqua
« Environ la même somme que tu viens de compter avec tant de soin. »
Puis il plia la quittance et la mit dans son bonnet en ajoutant
« Au péril de ta barbe, juif, aie soin que ceci soit en règle. »
Puis il se remplit, sans y être invité, une troisième coupe de vin et quitta l'appartement sans cérémonie.
« Rebecca, dit le juif, cet Ismaélite m'a joué cette fois. Néanmoins, son maître est un brave jeune homme, et je suis bien aise qu'il ait gagné de l'or et de l'argent par la vitesse de son cheval et la force de sa lance, laquelle, comme celle de Goliath le Philistin, pouvait se comparer à la navette d'un tisserand. »
En se retournant pour recevoir la réponse de Rebecca, il s'aperçut que, pendant son colloque avec Gert, elle avait quitté la chambre sans qu'il le remarquât. Sur ces entrefaites, Gert avait descendu les escaliers et avait gagné l'antichambre obscure, ou vestibule, et était embarrassé de trouver la porte de sortie, lorsqu'une forme blanche, éclairée par une petite lampe d'argent qu'elle tenait à la main, lui fit signe d'entrer dans une salle latérale. Gert éprouva quelque répugnance à obéir à cet appel. Rude et impétueux comme un sanglier pour les dangers terrestres, il avait toutes les terreurs caractéristiques de l'esprit saxon relativement aux faunes, aux démons des forêts, aux dames blanches et à toutes les superstitions que ses ancêtres avaient importées des déserts de l'Allemagne. Il se rappela encore qu'il était dans la maison d'un juif, c'est-à-dire d'un homme appartenant à ce peuple qui, outre les mauvaises qualités que le vulgaire lui attribuait, passait pour fournir des magiciens profonds et cabalistiques. Néanmoins, après un moment d'hésitation, il obéit à l'appel du fantôme et le suivit dans l'appartement indiqué, où il s'aperçut, à sa joyeuse surprise, que sa gracieuse conductrice était la belle juive qu'il avait vue au tournoi, et pendant quelques instants dans l'appartement de son père. Elle lui demanda, sur sa transaction avec Isaac, des détails qu'il rapporta fidèlement.
« Mon père a voulu plaisanter avec toi, brave homme, » dit Rebecca. « Il doit à ton maître une reconnaissance 10 fois plus forte que le prix de ses armes et de ce coursier. »
« Quelle somme as-tu payé tout à l'heure à mon père ?»«
80 sequins, » reprit Gert, surpris de la question.
« Dans cette bourse, » dit Rebecca, « tu en trouveras 100. Restitue à ton maître ce qui lui est dû et garde le reste pour toi. Hâte-toi, pars, ne t'amuse pas à me remercier, et prends garde en traversant cette ville encombrée où tu pourrais facilement perdre ce que tu portes, et même la vie.
Ruben, ajouta-t-elle en frappant dans ses mains, éclairez cet étranger, et ne manquez pas de tirer sur lui les verrous et la barre.
Ruben, un Israélite au front sombre et à la barbe noire, accourut à son appel, une torche à la main, ouvrit la porte extérieure de la maison, et, faisant traverser à Gert une cour pavée, le fit sortir par un guichet pratiqué à la porte d'entrée, qu'il ferma sur lui avec des verrous et des chaînes qui auraient fait honneur à une prison.
« Par Saint Dunstan !» s'écria Gert en trébuchant dans la sombre avenue. « Celle-ci n'est pas une juive, mais un ange du ciel. 10 sequins de mon brave jeune maître, 20 autres de cette perle de Sion. Oh, jour heureux! Encore un jour comme celui-ci, Gert, et tu peux te racheter de la servitude et devenir un frère aussi libre que le meilleur de ta classe. Et alors, je déposerai ma corne et mon bâton de porcher pour prendre le bouclier et l'épée de l'homme libre, et je suivrai mon jeune maître jusqu'à la mort, sans plus cacher ma figure ni mon nom. »
Chapitre 11.
Les aventures nocturnes de Gert n'étaient pas encore terminées. Il en fut bientôt convaincu lui-même lorsqu'après avoir dépassé deux ou trois maisons écartées, situées à l'extrémité du village d'Ashby, il se trouva dans un chemin obscur pratiqué entre deux talus élevés couverts de noisetiers et de houx, tandis que çà et là un petit chêne isolé étendait ses branches au-dessus du chemin. La ruelle était pleine d'ornières et défoncée par les voitures qui avaient récemment transporté au tournoi des objets de toute espèce. Elle était rendue plus sombre encore par les buissons qui interceptaient les rayons de la lune. On entendait les rumeurs qui s'élevaient du village, occasionnées par le réveillon, entremêlées de rires bruyants, tantôt interrompus par des cris de femmes et tantôt par les accords de la musique. Tous ces bruits, annonçant l'état de confusion où était la ville, encombrée de seigneurs, de militaires et de leurs suites dissolues, rendirent Gert un peu inquiet. « La juive avait raison, se dit-il en lui-même. Par le ciel et saint Dunstan, je voudrais être en sûreté et au bout de mon voyage avec ce trésor. Il y a un si grand nombre, je ne dirais pas de voleurs errants, mais de chevaliers errants, d'écuyers errants, de moines errants, de ménestrels errants, de jongleurs errants et de bouffons errants, qu'un homme ayant dans sa poche un seul marque serait en danger. À plus forte raison, un pauvre porcher avec un sac de sequins. Je voudrais être sorti de l'ombre de ces buissons d'enfer, afin que je puisse du moins voir l'éclair de Saint-Nicolas avant qu'il me saute sur les épaules. » Gert, en conséquence, hâta le pas, afin de gagner la plaine ouverte à laquelle aboutissait le chemin. Mais il n'eut pas le bonheur d'accomplir son projet. Au moment où il gagnait l'autre extrémité du chemin, où le taillis était le plus épais, quatre hommes s'élancèrent sur lui, comme il l'avait appréhendé, deux de chaque côté de la route, et le saisirent si lestement que la résistance eût été trop tardive, lors même qu'elle eût été praticable. « Rendez votre dépôt, dit l'un d'entre eux. Nous sommes les libérateurs de la République qui délivrent chacun de son fardeau. »
« Vous ne vous débarrasserez pas si facilement du mien, murmura Gert,
dont la brusque franchise ne pouvait être domptée. Même par la pression d'une violence immédiate, s'il était dans mon pouvoir de donner trois coups pour le défendre.
Nous verrons cela tout à l'heure, dit le brigand.
Et s'adressant à ses compagnons, il ajouta, emmenez ce drôle, il veut se faire casser la tête et se faire couper la bourse, et de cette manière ouvrir deux veines à la fois. Sur cet ordre, on entraîna Gert, et, ayant été poussé vivement sur le côté gauche de la route, il se trouva dans un taillis qui séparait cette route de la plaine. Il fut obligé de suivre ses rudes conducteurs au plus fourré de cette retraite, où ils s'arrêtèrent tout à coup dans une clairière irrégulière, en grande partie dépourvue d'arbres, et sur laquelle, par conséquent, les rayons de la lune tombaient sans obstacle. Ceux qui s'étaient emparés de lui furent rejoints là par deux autres personnages qui paraissaient appartenir à la bande. Ils portaient aux côtés des épées courtes et des gourdins à la main, et Gert put alors observer que tous les six avaient des visières qui auraient trahi leur métier, quand même leur premier procédé lui eussent laissé quelques doutes. « Combien as-tu d'argent, Manon ?» dit un des voleurs. « 30 sequins qui m'appartiennent, » répondit Gert d'un air renfrogné.
« C'est un mensonge !» s'écrièrent les brigands. « Un Saxon avec 30 sequins, qui revient à jeun du village, c'est un mensonge incontestable, et qu'il ne peut racheter que par tout ce qu'il a sur lui. « Je les ai entassés pour racheter ma liberté !» s'écria Gert. « Tu es un âne !» répliqua l'un des voleurs. « Trois peaux d'âle fortes, tu seras rendu aussi libre que ton maître, et plus libre encore s'il est Saxon comme toi. » « C'est une triste vérité, » répondit Gert. « Mais si mes 30 sequins peuvent racheter ma liberté près de vous, déliez-moi les mains, je vous les compterai. » Arrêtez !» dit l'un d'eux qui semblait exercer quelque autorité sur les autres. « Ce sac que tu portes contient plus d'argent que tu n'en annonces. Je le sens au travers de ton manteau. »
« Il appartient au bon chevalier, mon maître, » répliqua Goethe, « et assurément je ne vous en aurais pas dit un mot, pour peu que vous eussiez été satisfait de vous en tenir à ce qui m'appartient. »
« Tu es un honnête garçon, » reprit le brigand, « j'en serai le garant, et tout voleur que nous sommes, les 30 sequins pourront encore nous échapper si tu agis sincèrement avec nous. En attendant, rends ton dépôt pour le moment. »
En disant ces mots, il prit dans la poitrine de Goethe le grand sac de cuir contenant la bourse que lui avait donnée Rebecca, aussi bien que les autres sequins de son maître. Puis il continua les questions.
« Qui est ton maître ?»«
Le chevalier déshérité, » dit Goethe.
« Celui dont la bonne lance a gagné le prix dans le tournoi d'aujourd'hui ?» demanda le brigand.
« Quel est son nom et sa famille ?»
« C'est son plaisir, » répondit Goethe, « que ces choses restent secrètes, et assurément vous ne les saurez pas par moi. »«
Et toi, quel est ton nom de famille ?»«
Vous dire cela, » reprit Goethe, « ce serait révéler le nom de mon maître. »«
Tu es un insolent valet, » dit le brigand, « mais nous parlerons de cela tout à l'heure. Comment ton maître a-t-il acquis cet or ?» Est-ce qu'il fait partie de son héritage ou par quel moyen l'a-t-il obtenu ?
Par sa bonne lance, répondit Goethe. Ce sac contient la rançon de 4 bons chevaux et de 4 bonnes armures.
Combien y a-t-il ? Demanda le brigand.
200 sequins.
Que 200 sequins ? Dit le bandit. Ton maître a agi généreusement envers les vaincus et les a taxés à une rançon bien modique. Dis-nous les noms de ceux qui ont payé cet or. »
Goethe obéit. « Le cheval et l'armure du Templier brillant de Bois-Guibert, à quel prix ont-ils été estimés ? Tu vois que tu ne peux me tromper. »
« Mon maître, reprit Goethe, ne veut rien prendre au Templier, si ce n'est sa vie. Ils se sont défiés mortellement et ne peuvent faire échange de courtoisie.
« En vérité !» répliqua le voleur.
Et il hésita après avoir prononcé cette parole.
« Et que faisais-tu tout à l'heure à Asby avec ce dépôt confié à tes soins ?»«
Je suis allé pour rendre à Isaac, le juif d'York, » répliqua Goethe, « le prix d'une armure qu'il avait fournie à mon maître pour ce tournoi. »
« Et combien as-tu payé à Isaac ?»«
Il me semble, à en juger par le poids, qu'il y a bien 200 sequins dans ce sac. »«
J'ai payé à Isaac, » dit le Saxon, « 80 sequins, et il m'en a rendu 100 pour les remplacer. »«
Comment ? Que dis-tu ? » s'écrièrent tous les bandits à la fois. « Oserais-tu te moquer de nous en nous racontant des contes aussi peu vraisemblables ?»
« Ce que je vous dis, » reprit Goethe, « est aussi vrai que nous voyons la clarté de la lune au ciel. Vous trouverez la somme juste dans une bourse de soie dans le sac de cuir et séparée de celle de l'or. »
« Rappelle-toi, mon brave, que c'est d'un juif que tu parles, » dit le capitaine, « d'un israélite aussi peu habitué à restituer l'or que l'est le sable aride du désert à rendre la coupe d'eau que le pèlerin y répand.
« Il n'y a plus de pitié chez lui, dit un autre brigand, que chez un record qu'on n'a pas remboursé.
« C'est cependant ainsi, répondit Goethe.
« Qu'on me procure de la lumière à l'instant, dit le capitaine. Il faut que j'examine cette bourse dont il parle. Et si le fait est tel qu'il le rapporte, la générosité du juif sera presque aussi miraculeuse que l'était le filet d'eau qui abreuva ses pères dans le désert. »
En un clin d'œil, on eut de la lumière, et le brigand se mit à examiner la bourse. Les autres se groupèrent autour de lui, et même les 2 bandits qui retenaient Goethe quittèrent leur prise et tendirent le cou pour être témoins du résultat de cette perquisition. Profitant de leur négligence et par un effort de vigueur et de promptitude, Gerd se débarrassa tout à fait d'eux et aurait pu s'échapper s'il avait pu se résoudre à laisser derrière lui le bien de son maître. Mais ce n'était pas là son intention. Il arracha le gourdin d'un des bandits, abattit d'un coup le capitaine, qui ne prévoyait nullement cette attaque, et réussit presque à ressaisir le sac et son trésor. Mais les voleurs étaient trop agiles pour lui. Ils s'emparèrent une seconde fois du sac et du fidèle Porcher.
« Scélérat ! » dit le capitaine en se relevant. « Tu m'as cassé la tête, et avec d'autres hommes de notre métier, ton audace te coûterait cher. »
Mais tu vas connaître ton sort à l'instant. D'abord, parlons de ton maître, car les affaires du chevalier passent avant celles de l'écuyer, selon les règles de la chevalerie. Tiens-toi donc en paix en attendant, car si tu bouges une seconde fois, tu recevras de quoi rester tranquille pendant le reste de tes jours.
Camarade, dit-il aux autres brigands, sur cette bourse sont brodés des caractères hébraïques.
Et j'ajoute foi au récit de ce drôle. Le chevalier errant, son maître, doit passer chez nous sans payer de péage. Il nous ressemble trop pour que nous prélevions sur lui un tribut, car les chiens ne doivent pas s'entre-déchirer quand les loups et les renards abondent.
« Nous ressembler ? » dit un des bandits. « Je voudrais savoir comment vous l'entendez. »«
Imbécile ! » reprit le capitaine. « N'est-il pas comme nous, pauvres et déshérités ? Ne gagne-t-il pas sa vie à la pointe de son épée comme nous ? N'a-t-il pas vaincu Front de Bœuf et Malvoisin, comme nous aussi nous voudrions les vaincre ? N'est-il pas l'ennemi mortel de Brillant de Bois-Guibert, que nous avons tant de raisons de craindre ? Et lors même qu'il en serait autrement, est-ce à nous de faire preuve de moins de conscience qu'un mécréant de juif ?
Non, cela serait honteux, murmura un autre bandit.
Cependant, quand je servais dans la bande du brave vieux Gondelin, nous n'avions pas de ces scrupules de conscience, et je suis sûr que vous renverrez aussi sans endommagement cet insolent de paysan.
Non, si tu es capable de l'endommager toi-même, répliqua le capitaine.
Ici, mon gars, continua-t-il en s'adressant à Gerd, sais-tu manier le gourdin, toi qui es si prompt à t'en servir?
Il me semble, reprit Gerd, que tu devrais pouvoir résoudre cette question.
Par ma foi, tu m'as donné là un coup un peu rude, reprit le capitaine. Donne-en autant à ce drôle, et tu partiras intact.
Mais si tu succombes, puisque tu es un gaillard si résolu, je crois que c'est moi qui devrais payer ta rançon moi-même.
Prends ton gourdin, meunier, ajouta-t-il, et gare à ta tête. Et vous autres, lâchez cet homme, donnez-lui un bâton. Il y a assez de lumière pour y voir.
Les deux champions, également armés d'un gourdin, s'avancèrent dans le milieu de la clairière afin de profiter le plus possible du clair de lune. En attendant, les voleurs se mirent à rire et crièrent à leurs camarades
« Meunier, gare à ta caboche !»
Le meunier, d'un côté, tenant son bâton par le milieu et le faisant tourner au-dessus de sa tête, en exécutant ce que les Français appellent le moulinet, s'écria d'un ton vantard.
« Approche donc, Manant, si tu l'oses. Tu vas connaître la force du poing d'un meunier. »
« Si tu es meunier, » répondit Gerd avec assurance, en faisant tourner aussi son arme au-dessus de sa tête avec une égale adresse. « Tu es doublement voleur. » Et moi, homme de cœur, je te défie. »
En disant ces mots, les deux champions marchèrent l'un sur l'autre, et pendant quelques minutes, ils déployèrent une grande égalité de force, de courage et d'adresse, parant et rendant les coups de l'adversaire avec une suprême dextérité. Le bruit retentissant de leurs armes eût pu faire supposer, à une personne éloignée à quelque distance, qu'il y avait au moins 6 personnes qui luttaient de chaque côté. Des combats moins opiniâtres et même moins dangereux ont été célébrés en beaux vers héroïques. Mais celui de Gerd et du meunier doit rester ignoré,
faute d'un poète capable de rendre justice à cette lutte accidentée. Cependant, bien que le combat au bâton soit passé de mode, ce que nous pourrons faire en prose, nous le ferons pour honorer ces braves champions. Ils combattirent longtemps, jusqu'au moment où le meunier commença à se fâcher de trouver un si fier adversaire et d'entendre le rire de ses camarades, qui, ainsi qu'il arrive en pareille circonstance, se réjouissaient de sa mauvaise humeur. Cette disposition d'esprit n'était guère favorable au noble jeu du bâton, dans lequel il faut le plus grand sang-froid, et cela fournit à Goethe, dont le caractère, bien qu'un peu bourru, était calme et posé, l'occasion de prendre le dessus. Il en profita en maître. Le meunier s'avança, furieux, en portant des coups alternativement des deux bouts de son arme et cherchant à s'approcher à une demi-distance, tandis que Goethe se défendait contre l'attaque, tenant son bâton de ses deux mains espacées de 3 pieds et se couvrant en déplaçant son arme avec une grande agilité, de manière à protéger sa tête et son corps. Il se tint ainsi sur la défensive, marquant la mesure de l'œil, du pied et de la main, jusqu'au moment où, voyant son adversaire essoufflé, il lui porta de la main gauche un coup de pointe à la figure. Et, comme le meunier cherchait à parer le coup, il fit glisser sa main droite jusqu'à la gauche et d'un revers frappa son ennemi sur le côté gauche de la tête. Le meunier mesura le sol tout de son long. « Bien fait à la yeoman !» s'écrièrent les bandits. « Beau jeu ! Et vive la vieille Angleterre ! Le Saxon a sauvé sa bourse et sa peau, et le meunier a trouvé son homme. « Tu peux partir, l'ami !» dit le capitaine en se tournant vers Goethe, confirmant ainsi la voix générale. « Et je vais te donner 2 de mes camarades, qui t'indiqueront le meilleur chemin pour regagner le pavillon de ton maître et te protéger contre les rôdeurs de ténèbres qui auraient peut-être moins de conscience que nous. Car il y en a plus d'un aux aguets par une nuit comme celle-ci. Sois discret toutefois, ajouta-t-il sévèrement. Rappelle-toi que tu as refusé de déclarer ton nom. Ne demande pas le nôtre, et ne cherche pas à découvrir qui nous sommes et ce que nous faisons. Car si tu en fais la tentative, tu trouveras une plus mauvaise fortune que tu en aies encore rencontrée. » Goethe remercia le capitaine de sa courtoisie et promit de ne pas oublier sa recommandation. 2 des outlaws, saisissant leur gourdin et disant à Goethe de les suivre, s'avancèrent rapidement par un sentier caché qui traversait le taillis et le terrain bouleversé qui lui était contigu. À la lisière de ce taillis, des hommes parlèrent à ses guides, et après avoir reçu une réponse faite à l'oreille, ils se retirèrent dans les bois et les laissèrent passer sans molestation. Cette circonstance fit croire à Goethe que non seulement la bande était très nombreuse, mais qu'elle avait des postes réguliers échelonnés autour du rendez-vous. Arrivé à la plaine de Bruyères, où Goethe aurait pu lui-même retrouver sa route, les voleurs le conduisirent au sommet d'une petite colline, d'où il put voir, s'étendant devant lui au clair de lune, les palissades de la Lys, les pavillons brillants construits à chaque extrémité, avec les bannières qui les ornaient, flottant au vent, et d'où s'élevait le bruit de la chanson que les sentinelles murmuraient pendant leurs heures de veille. Les voleurs s'arrêtèrent en cet endroit. « Nous ne pouvons t'accompagner plus loin, » dirent-ils. « Il y aurait du danger pour nous. N'oublie pas l'avertissement que tu as reçu. Garde le secret sur ce qui t'est arrivé cette nuit, et tu n'auras pas lieu de t'en repentir. Mais si tu négliges nos conseils, la tour de Londres ne te protégerait pas contre notre vengeance. « Bonne nuit, mes bons amis, » dit Goethe. « Je me souviendrai de vos ordres, et j'espère que je puis... « Sans vous offenser, vous souhaitez un métier plus sûr et plus honnête. » Sur ce, ils se séparèrent. Les bandits reprenant la direction par où ils étaient venus, et Goethe se dirigeant vers la tente de son maître, à qui, malgré les injonctions qu'il avait reçues, il fit part de toutes ses aventures de la nuit. Le chevalier déshérité fut très étonné, autant de la générosité de Rebecca, dont toutefois il résolut de ne pas profiter, que celle des bandits, à qui une pareille qualité paraissait devoir être tout à fait étrangère. Cependant, ses réflexions sur ces étranges événements furent interrompues par la nécessité de prendre un peu de repos. Que la fatigue de la journée et le besoin d'être dispo pour la rencontre du lendemain rendaient également indispensable. Le chevalier se coucha donc sur un lit somptueux dont la tente était pourvue, tandis que le fidèle Gert, étendant ses membres vigoureux sur une peau d'ours qui servait de tapis au pavillon, se plaça en travers de l'ouverture de la tente, de manière que personne n'y pût entrer sans le réveiller.